Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu cette semaine vous dire eh ben, bonne année et vous parler de l'action du gouvernement face à la catastrophe climatique qui a touché Mayotte. Le maire de Pau, à son apogée, est allé se faire voir dans l'océan Indien et sur le site de France Info, on peut lire « François Bayrou a annoncé la présentation d'une loi d'urgence en Conseil des ministres le 3 janvier, avec une présentation au Parlement sous 15 jours. » Bon bah c'est plus ça. La présentation au Conseil des ministres est décalée d'une semaine. Un peu à la manière d'une Elisabeth Borne qui s'éloigne quand la réalité s'affiche sous ses yeux, l'urgence devient moins grave quand le Premier ministre est de retour en France métropolitaine. Si l'aide aux populations était le ferment de l'action gouvernementale, le mépris des ressources humaines ne s'afficherait pas aussi crûment. Et pourtant, on aurait pu vous parler du bougisme darmanesque, l'humoriste d'extrême droite qui s'étouffe quand on lui parlait de violences policières en pleine affaire George Floyd, devient « je suis partout ». Tantôt dans une prison en Picardie, tantôt dans les colonnes de journaux, tantôt sur des plateaux télé, tantôt dans un tribunal à Marseille. En tout cas, toujours entouré d'uniformes et de journalistes. À ces occasions, « je suis partout » balance de la petite phrase qui claque et fait le bonheur des journalistes. En quête de sujets tout près, hein, quand ils n'ont pas le temps. Tant ils n'ont pas le temps de faire autre chose que de l'actualité brûlante. Alors par exemple, je suis partout à proposer de compliquer à loisir la vie des 100 plus grands narcotrafiquants mis en prison en France. 100. Alors pourquoi pas 96 ou 124 ? Eh bien comme pour Christelle Morançais qui a annoncé 100 millions d'économies sur un coup de tête. Oui, parce qu'a priori, il y avait un besoin de 80 millions et d'ailleurs 82 millions ont été votés au cours du budget là en décembre 2024 pour la région. 82 millions d'économies. Comme quoi, les 100 millions, à quoi ça servait ? Ben juste à faire le truc qui claque ! Ben parce que c'est un chiffre rond, hein. La réalité de l'action, l'intérêt de s'attaquer à cela, et pas à plus ou moins, n'est pas un sujet. Non, l'important, c'est de l'avoir dit. Pour que le nom de « Je suis partout » circule dans les dîners en ville, sur les chaînes d'infos en continu, dans les conversations de Monsieur Tout-le-Monde, qui peut être d'ailleurs une madame ou autre. Eh bien, même si le spectacle ne vous intéresse pas, il s'impose à vous. Alors du coup, du Darmanin maintenant, toutes les semaines, encore et encore, et là il se fait passer pour un justicier, ça va être long. On aurait pu vous parler de milliardaires qui militent pour l'extrême droite. Ah, vous l'aurez reconnu, un certain Vincent Bolloré, qui fut à la tête d'une multinationale de la logistique, du transport et de la communication, n'est plus le président. Non, 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 il a lâché l'affaire depuis quelques années. Ce sont ses fils qui tiennent la boutique. Mais lui n'a jamais caché quelle pouvait être la fonction des organes de presse et d'édition qu'il a accumulés durant 15 ans. Propager son idéologie réactionnaire. Et cette idéologie réactionnaire, bah maintenant on peut l'entendre, la voir, la lire un peu partout. Aussi, dans les journaux, les télés, les radios, eh bien, on trouve beaucoup d'invités d'extrême droite quand ils appartiennent à l'Empire Bolloré, qui propage l'idée d'une hiérarchie entre les êtres humains, et alors vis-à-vis du reste du vivant, je vous laisse imaginer. Des groupes se proposent de désarmer Bolloré. Extrait de l'appel, justement, du site Désarmer Bolloré, pas d'accent à Bolloré, désarmerbolloré.net. Extrait de l'appel. Appel à désarmer l'Empire Bolloré. Si l'on peut se réjouir provisoirement que le Rassemblement National n'ait finalement pas réussi à l'emporter lors des dernières élections, celui-ci compte bien poursuivre sa conquête des territoires et des imaginaires. Nous devons sans attendre de prochaines échéances électorales unir nos forces contre les vecteurs de fascisation de la société. Nous appelons en ce sens à mener bataille partout contre Bolloré parce que c'est un acteur du ravage écologique, de l'exploitation néocoloniale mais aussi parce qu'il est devenu en quelques années, un levier majeur de la conquête du pouvoir par l'extrême droite. Alors, si on suit cet appel, on peut oublier de lire le JDD, surtout pas l'acheter, d'écouter Europe 1, et par exemple, si on est à la tête d'une boîte, on ne fait pas de pub sur Europe 1. Et on peut oublier de regarder CNews, et pareil pour ceux qui tiennent une boîte, non, pas de pub sur CNews. Bon, voilà ce qu'on peut faire, entre autres, parce qu'ils sont nombreux et variés, les médias Bolloré. Mais on ne sait pas assez que le monde de l'édition est plein de morceaux de Bolloré. Les groupes à l'origine de l'appel ont fait une liste sur le site Désarmé Bolloré Point net, j'ai failli le louper. Eh bien oui, plein de documents. Un document, en l'occurrence, une petite fiche, nous permet de savoir quelles sont les maisons d'édition qui financent le projet fasciste de Bolloré. C'est le titre. Alors, ben, ça nous rappelle désarmébolloré.net, un petit visuel qui nous rappelle que, ben, par exemple, les éditions Le Masque appartiennent à Bolloré. Tout le groupe Hachette, donc dès que vous achetez du Hachette, vous financez le projet de Bolloré. En ce qui concerne le scolaire, on a un truc qui s'appelle Duno. On a Hatier, on a... Voilà, ça continue. Pour les romans, bah alors là, laissez tomber, hein, Calman Lévy, Le Livre de Poche, Fayard, Stock, J.C. Lattès, Jean-Claude Lattès, tout ça, ça appartient à Bolloré. Pour les livres pratiques, Le Guide du Routard. En finançant, en achetant d'un guide du routard, vous financez l'Empire Bolloré et donc la fascisation de la France. Puisque oui, il l'a dit, hein, le but c'est ça quand même. On peut continuer avec la BD, par exemple, Robinson, Pika Édition. On peut parler aussi de Jeunesse, le livre de poche Jeunesse, Castelmore, Adèle. Ouais, avec Mortel Adèle, oui, c'est disruptif. Mortel Adèle, oui, ben ça finance Bolloré. Et là, dans la SF, par exemple, les éditions Bragelonne. Ah ben ouais, mais on se disait quand même, ça c'est du lourd, il y a des trucs... Ça finance Bolloré. Toutes ces maisons d'édition rapportent de l'argent à Bolloré et son monde. Aussi, au-delà de l'abstention d'acheter des bouquins à ces boîtes, les groupes qui appellent à désarmer Bolloré proposent de distinguer les livres de l'Empire Bolloré dans votre librairie préférée par des marque-pages et des stickers idoines. Pour en savoir plus, allez sur désarmerbolloré.net et cliquez sur Actualité en haut. Et pour en savoir plus sur les actions qui auront lieu entre le 29 janvier et le 2 février, vous allez sur le même site désarmerbolloré.net et cliquez sur passer à l'action, c'est en bas. Voilà, bah vous savez tout. On aurait pu vous parler de Extinction Rébellion, un groupe militant qui s'active contre l'extinction du vivant à cause de nos activités. Vendredi 20 décembre, des militants d'Extinction Rébellion se sont invités à la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand. Mais rassurons le bourgeois, ils ont été arrêtés. Oui, par les forces de l'ordre qui ont permis enfin d'insister à un spectacle sportif consistant à faire du ski et tirer sur des cibles, le tout dans de la neige. Seulement comme la neige, il n'y en avait pas, il a fallu amener de la neige artificielle depuis des pistes jusque dans le village où avait lieu la compétition. Mais c'est pas de la neige artificielle. Non, non, la propagande en fait de la neige de culture. Oh, c'est joli, on a l'impression d'un petit paysan montagnard qui cultive de la neige, qui cultive des flocons un par un. Et non, pas du tout. Ou de la neige de stockage, oui, on appelle ça aussi comme ça. Ne vous faites pas abuser par ces nouvelles expressions, ce sont bien des canons à neige, qu'on appelle enneigeurs d'ailleurs, pour faire moins militaire, qui permettent de créer artificiellement de la neige à partir d'eau pompée ou stockée aux dépens du reste du vivant, de l'énergie, oui, il faut de l'énergie, pour produire la neige et la transporter quand on s'en sert ailleurs que sur les pistes. À ça, on peut ajouter la texture de la neige qui est plus dure, celle qui est de la neige soi-disant de culture, soi-disant de stockage, qui est en fait de la neige artificielle. Eh bien, elle est plus dure que la neige... comment dire ça, naturel. Ah, c'est bizarre quand même. Hein. On a réussi à faire des produits naturels, mais pas naturels. Et du coup, la neige est plus dure et plus dense. Le bruit du canon, autant de pollution sonore dont se foutent les humains, mais bousille la vie des autres êtres vivants dans la montagne. Si on vous propose une semaine à la neige, réfléchissez. Alors réfléchissez pourquoi ? Bah parce qu'on n'a qu'une vie, après moi le déluge. Bah ouais, mais quand même, il y a des enfants, peut-être même que vous, vous en avez. Eh ben, réfléchissez pour vos enfants et ceux des autres. Utiliser les enfants, oui, on va me dire que c'est moche, doivent se dire certains, mais il conviendrait de devenir un petit peu responsable. Un petit peu quand même. Un proverbe qui peut venir de n'importe où d'ailleurs, nous dit « Nous ne sommes que les locataires de la terre de nos enfants. » Alors agissons en adultes. Un peu. Dans le coin, depuis le 26 décembre, Extinction Rébellion a un fait marquant. C'est l'implantation dans des arbres en face de la mairie de Cap-Breton, dans les Landes. Alors j'ai dit dans le coin, mais c'est un peu plus au sud. Contre les lignes à très haute tension du réseau de transport d'électricité RTE. Un tracé qui passe au plus court, à travers des espaces qui n'avaient pas encore de pollution électromagnétique d'origine humaine. Les militants d'Extinction Rébellion demandent de passer le long des autoroutes et pour se faire entendre, eh bien, ils squattent des platanes. Depuis le 26 décembre, des platanes en face de la mairie de Cap-Breton. Après avoir vérifié hier, ils y étaient toujours. mort. Jeudi 2 janvier également, des activistes de Extinction Rébellion passaient en procès à Paris pour avoir aspergé la fondation Louis Vuitton de peinture à l'eau et avoir pris la parole pour dénoncer le climat d'injustice fiscale attaché au régime des fondations. Les faits remontent au 1er mai 2023. Les 4 activistes avaient été arrêtés et mis en garde à vue en juillet 2024 et le procès aurait dû avoir lieu le 2 janvier. Bon, mais finalement, il est repoussé en septembre prochain. La justice suit son cours. Pourquoi parler d'Extinction Rébellion ? Parce que c'est l'un des groupes, comme il en existe tant, qui résiste. Qui résiste, oui, c'est vraiment ça, qui résiste dans une des actions, une espèce de guerre de basse intensité contre l'extinction du vivant qui est organisée par les libéraux qui nous gouvernent et qui veulent absolument faire du pognon, quoi d'autre ? Du pognon, ah oui, c'est vrai, et puis du pouvoir avec un petit peu de pognon. Mais, compter sur le balai triste des ministres qui se passent des pouvoirs, à mon avis, ça fonctionnera pas. Alors, ça nous a donné droit, tout au long de la fin d'année, ces passations de pouvoir à des cérémonies républicaines sur des perrons. Hein. On ne sait pas trop si les personnels ont le temps de s'attacher à leurs ministres. Alors, ministres tentent, les ministres en question, eh bien, vont et viennent, voire même dégagent parfois. Mais ils doivent être là pour dire au revoir aux démissionnaires et bonjour au suivant. Ce serait ça la politique. Dire bonjour à un nouveau ministre, au revoir au précédent, et puis retourner au boulot. Voilà, ce serait ça. La politique, et maintenant, l'attente de l'action du dernier nommé et de la conjecture en pagaille. Vraiment un balai triste, ces passations de pouvoir, où finalement, on a vu personnes que l'on connaissait déjà, remplacer des gens que l'on connaissait déjà pour faire une politique que l'on connaît déjà et qui est à base de, je crois qu'on l'a déjà dit, ouais, c'est du pognon et du pouvoir. Nos soi-disant représentants ne représentent souvent qu'eux-mêmes et leur groupe politique. L'intérêt commun devrait primer. Ah, vous avez entendu le conditionnel ? Cette année encore, comptons sur nous. On aurait pu vous parler des mineurs non accompagnés qui occupent toujours la gaieté lyrique à Paris depuis décembre, depuis début décembre, le 10 décembre exactement. Environ 200 jeunes sans-papiers mineurs sont accompagnés. Non accompagnés, pardon, squattent la salle de spectacle de la Gaîté Lyrique pour ne pas dormir à la rue. Le lieu sert de point d'ancrage également pour faire les dossiers, parce qu'il en faut de la paperasse pour prouver qu'on a le droit de ne pas mourir dans d'atroces souffrances dehors. C'est incroyable quand même d'être dans une situation où un pays aussi riche que la France ne réussit pas à accueillir une partie de la population qui aura envie de profiter de tous les avantages que nous avons dans les pays riches. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, sauf si on pense que systémiquement, les pays riches sont plutôt racistes. Le lieu donc sert de point d'ancrage, la Gaîté Lyrique, pour faire les dossiers, pour faire des assemblées générales et des manifs également, afin de rappeler à l'État, au département de la Seine et à la ville de Paris, leurs obligations respectives quand il s'agit de mineurs, mais aussi quand il s'agit tout simplement d'être humain. Et sans transition, on aurait pu vous parler de Laurent Wauquiez. Depuis quelques mois, quand apparaît Laurent Wauquiez dans des posts sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ouais, enfin un truc comme ça, il lui est souvent demandé de rendre l'argent. Il faut dire que ce pourfendeur de l'assistanat aime beaucoup l'argent. L'argent public, en l'occurrence. Que ce dernier, l'argent public, serve à payer des dîners fastueux ou des enquêtes d'opinion sur des passages télé de Laurent Wauquiez, il l'aime cet argent. Quand Laurent Wauquiez est au centre de l'action, mais que l'argent appartient aux habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, y a un petit couac quand même. Surtout pour quelqu'un qui passe son temps à dire que les RSA gagnent trop d'argent, que les chômeurs sont des grosses feignasses, etc. Alors, il ne l'a pas dit texto, mais tout son discours sur l'assistanat et que finalement, les assistés, ce sont tous ces pauvres-là qu'on empêche de mourir de faim. Le gars, il peut quand même se permettre, il aurait dépensé 1250 balles pour un dîner avec un certain Michel Houellebecq. 1250 balles, comment on peut débourser un SMIC en un dîner ? Je ne sais pas. Justement, à propos des dîners, il est d'accord pour rendre l'argent, comme il l'a dit en août 2024, mais pour l'instant, il ne l'a pas fait. Il a même voulu empêcher de connaître les participants à ces quelques 90 dîners en faisant appel quand le tribunal administratif lui demandait de répondre à l'instigation du Parti Socialiste de la région qui avait demandé à ce que justement soient dévoilés les noms de ceux qui avaient profité de ces dîners payés rubis sur l'ongle par Laurent Wauquiez avec l'argent du contribuable. Alors, même pas du contribuable, hein, l'argent tout court des habitants de Auvergne-Rhône-Alpes. Le Conseil d'État a confirmé la décision du tribunal administratif et Laurent Wauquiez va devoir nous informer sur l'utilisation de l'argent public à son profit. À défaut de le rendre, mais en tout cas, la prochaine fois que vous en parlez, n'oubliez pas de mettre le petit truc, hein, rend l'argent. Mais finalement, on a préféré vous parler encore et encore, pour la dernière fois, de la Syrie. Alors d'abord, nous allons terminer notre entretien de 2021 avec Pierre Bance, qui a écrit « La fascinante révolution du Rojava » aux éditions Rouge et Noir, un livre que je vous recommande puisqu'il y a à l'intérieur des petits documents annexes qui permettent de comprendre quel est le projet de ce Rojava qui s'appelle en fait l'Ahanès, qui est donc l'administration autonome du nord-est de la Syrie. Vous avez entendu les deux premières parties de notre entretien de 2021 avec Pierre Bance qui a écrit « La fascinante révolution du Rojava » aux éditions Rouge et Noir lors des deux dernières émissions qui ont eu lieu l'année dernière. Ouais, je sais, c'est pas drôle. Bon, tout d'abord, parlons d'économie. À travers une citation du contrat social, cette fameuse constitution du Rojava, et puis petite conclusion, et on se retrouve après. La révolution, donc, a également un versant économique. Toujours dans le contrat social, on peut lire à l'article 11 « La Fédération démocratique de la Syrie du Nord est fondée sur le principe de l'appropriation collective de la terre, de l'eau et de l'énergie. » Donc ça, ça appartient à tout le monde. Elle adopte les principes de l'économie sociale et de l'industrie écologique. Elle interdit l'exploitation, le monopole ainsi que la transformation de la femme en objet. Elle apporte une couverture sociale et de santé à tous les individus. Du coup, cette économie, qui est une économie dite sociale, est vue comme un objectif à long terme contre le capitalisme, ce système économique intimement antisocial. Mais quelle réalité pour la mise en œuvre de ce changement économique ? On écoute à nouveau Pierre Bance.
C'est pareil que sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de créer des coopératives. Elles sont aidées par les autorités, elles sont incitées à le faire. Mais ça représente encore peu de choses par rapport à l'économie générale. C'est-à-dire que la propriété n'a pas été abolie. La propriété privée n'a pas été abolie. Il reste des entreprises privées, mais il reste même des domaines agricoles privés assez importants. Et dans l'idée de Bookchin, c'était de créer des coopératives qui vont pousser le capitalisme jusqu'à sa perte. Alors là, l'idée est la même, mais on est loin d'en être là. Je vais donner un exemple. Bon, il y a deux grandes richesses au Rojava, enfin dans la fédération, c'est le blé et le pétrole. S'agissant du pétrole, l'exploitation du pétrole ne se fait pas n'importe comment, et justement au Rojava, on le faisait un peu n'importe comment, quoi. C'est-à-dire c'est de manière artisanale, tout à fait contraire à l'écologie. On pestait tout le truc et ceux qui travaillaient là-dedans risquaient vraiment le cancer du pétrole. Donc ils ont fait une sorte d'appel d'offres à l'étranger pour que des entreprises viennent exploiter le pétrole efficacement et correctement. Déjà, ils ont demandé à des ingénieurs syriens d'apporter leur contribution, des ingénieurs qui venaient de Syrie, hein, donc avec l'accord d'Assad, évidemment. Ils l'ont fait aussi d'ailleurs pour les barrages, hein, les barrages hydroélectriques. Et donc, il y a une entreprise américaine qui a été créée, on pourrait dire ad hoc, par Trump, pour exploiter le pétrole du Rojava, de la Syrie. Et quand Biden est arrivé, il a dit « mais non, c'est pas possible parce qu'il y a ce qu'ils appellent la loi César, hein, c'est-à-dire le boycott de la Syrie. Et donc le Rojava, malgré tout, c'est la Syrie, donc il ne peut pas y avoir une entreprise américaine qui exploite ça. Ben, » les autorités du Rojava ont rouspété, ont dit « mais non, mais attention, parce que quand même, nous, on a besoin de ce pétrole d'abord pour notre population, puis aussi pour le vendre, parce qu'on a besoin d'argent pour faire vivre les gens. » Et du coup, je ne sais pas si les Américains ont fait une bonne manœuvre ou s'il y a une magouille là-dessous, mais l'entreprise américaine a été remplacée par une entreprise, on ne sait pas trop, chinoise, anglaise, qui exploite le pétrole actuellement. Donc ils font du commerce, de leur blé et de leur pétrole, hein. Le Rojava, c'était pas pauvre en Syrie, hein, c'était le grenier à blé de la Syrie. Hein. Et il y a, je crois, 70% du pétrole dans la fédération avec les régions arabes, hein, qui sont contrôlées par les Kurdes et les Arabes. Là-bas, dans les régions arabes, il y a une résistance. Par exemple, il y a eu des manifestations en disant « les Kurdes nous volent notre pétrole » ou « les Kurdes et les Américains nous volent notre pétrole ». Des manifestations qui sont poussées d'ailleurs par Assad, hein, par les services secrets d'Assad ou les Turcs, hein, pour foutre la merde un peu là-bas. Mais n'empêche, ça existait. Ouais.
Donc là encore, des résistances. Il est vrai que mettre à mal le capitalisme n'est pas chose aisée, en particulier si on tire des revenus d'un produit à exporter. Donc un produit que l'on doit vendre sur le marché international qui reste largement capitaliste. En conclusion, malgré ses lacunes, la révolution est-elle en marche au Rojava et dans les régions arabes libérées, c'est-à-dire la Fédération de Syrie du Nord et de l'Est? Eh bien, on laisse cette conclusion à Pierre Bance.
C'est quand même une révolution qu'il faut soutenir, mais il ne faut pas raconter des histoires, parce que, comme disait quelqu'un, la vérité est révolutionnaire. Il vaut mieux avoir une vision réelle des choses pour les soutenir que de raconter des blagues qui, après, sont facilement démontées par les ennemis de cette révolution. Donc il y a une volonté d'instituer le confédéralisme démocratique, on va dire, c'est la théorie d'O'Callaghan, hein, je dis O'Callaghan en français, c'est-à-dire une société basée sur la commune et fédérée, pour simplifier, donc une société libertaire en fin de compte, hein, avec tous les principes, surtout celui du délégué, avec des mandats révocables, des assemblées souveraines, etc. On voudrait faire peut-être un grand Chiapas, hein, au Rojava. Je crois qu'il y a la volonté, l'honnêteté, mais... Il faut quand même imaginer ce pays. Hein. On voit au Rojava des armées qui circulent. Alors, les Américains circulent comme chez eux. Les Russes, ils circulent comme chez eux. Assad fait ses petites incursions parce qu'il y a un petit accord sur la protection de la frontière. Les Turcs, il y a un accord avec les Russes pour qu'ils aient le droit de faire des patrouilles le long de la frontière. Il y a même eu des accidents entre des patrouilles américaine et une patrouille russe, ça a failli tourner au vinaigre. Il faut imaginer ça, enfin, hein, comment faire une révolution dans ce bordel, quoi.
Et ouais, et depuis, ça continue, quand on parlait de guerre. Hein. De fait, en 2021, la volonté est là, mais la réalité aussi. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez tous entendu parler de la prise de Damas par des djihadistes qui ne le sont plus, le fameux HTC, Hayat Tahrir al-Sham, qui fut bien aidé par plusieurs forces d'opposition au régime, notamment dans la région de Soueda, à majorité druze dans le sud-ouest du pays, et dans la province de Deraa, où avait tout commencé en 2011, toujours dans le sud-ouest de la Syrie, où les combats avaient repris en 2021 et continué de manière larvée depuis. Au même moment, au moment où du sud au nord, le régime de Bachar el-Assad s'effondrait, eh bien, les milices pro-turques regroupées dans l'armée nationale syrienne ont bifurqué vers l'est et frappé les territoires de l'Ahanès, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'administration autonome du nord-est de la Syrie. Eh bien, ce qu'on appelle souvent le Rojava. Entre les 7 et 11 décembre a eu lieu la bataille de Manjib sur la berge ouest de l'Euphrate. Une opération appelée Aube de la liberté par l'armée nationale de libération, hein, comme quoi la liberté ça sert vraiment à n'importe quoi, qui est armée par la Turquie et qui est en fait composée de groupes disparates dont de nombreux djihadistes qui auraient pour point commun d'aller là où on les paye. On retrouve par exemple ces djihadistes de l'armée nationale de libération en Libye en 2019, au Haut-Karabakh en soutien à l'Azerbaïdjan et même au Sahel pour sécuriser des intérêts turcs comme des mines au Niger. Pour ce faire, les combattants sont embauchés par une entreprise de mercenaires, le Sadat, qui est vu comme, je cite, « l'arme secrète d'Ankara dans les guerres en Afrique du Nord et au Moyen-Orient », nous dit un article de France 24 de mai 2024. La bataille de Manjib du 7 au 11 décembre a vu la victoire des troupes soutenues par la Turquie. Depuis, les milices pro-turques tentent de mettre la pression sur Kobané et aujourd'hui même Eh bien, il y a des attaques contre Kobané. Et ils se livrent également à des pillages et des exactions comme à leur habitude. Des actions qui font craindre le pire, puisque jeudi 12 décembre, le journal L'Humanité titrait « Nous risquons un nettoyage ethnique. Les Kurdes en première ligne face à l'offensive turque. » Et qui n'est pas la première. En janvier 2018, les milices pro-turques prennent Afrin, au nord-ouest de la Syrie. En octobre 2019, déjà, la Turquie avait attaqué l'Ahanès depuis sa frontière sud et pris une zone de plusieurs centaines de kilomètres carrés servant de zone tampon entre l'autorité autonome du nord et de l'est de la Syrie et la Turquie. Depuis, la zone en question ne s'étendant pas, l'offensive de décembre contre le régime de Bachar el-Assad a servi de prétexte à l'expansionnisme turc. Et à chaque offensive, on dénombre des exactions. D'où la crainte des populations kurdes, qu'elles soient dans les partis et mouvements proches du PKK, comme le PYD, ou proches du KNC, le Conseil national kurde, qui est basé en Turquie. De nombreux réfugiés ont quitté Manjib et la région pour rejoindre la rive est de l'Euphrate, où on trouve justement Kobané. En espérant que Kobané ne soit pas la prochaine conquête de la fumeuse armée syrienne, nationale syrienne. Au sud de l'Ahanès, la ville de Deir ez-Zor a également été conquise par des troupes islamistes. Et les combats continuent au sud de Manjib pour repousser cette armée nationale syrienne. C'est la guerre. Pendant ce temps, les Kurdes syriens essaient de parler d'une seule voix. Mais la volonté fédéraliste des Kurdes ne semble pas intéresser les nouveaux dirigeants du pays, ni les nouveaux dirigeants syriens, ni les habitants majoritairement arabes de Raqqa, par exemple, l'ancienne capitale de l'État islamiste qui a été intégrée à l'Ahanès, qui avait été libérée par les forces démocratiques syriennes, les fameuses FDS, qui ne regroupent pas que des Kurdes, mais qui est considéré comme laïque et de gauche. Eh ben, ça change un petit peu. Donc les forces démocratiques syriennes avaient libéré Raqqa, mais là actuellement, Raqqa vit sous couvre-feu car les nuits sont propices à des actions contre les bâtiments de l'Ahanès et l'agitation des cellules de l'État islamiste. Comme vous pouvez l'entendre, la situation est difficile. Eh ouais, je fais mise à mort. Mais la résistance continue et localement des actions ont lieu. Alors si vous voulez vous renseigner sur le sujet, je vous conseille deux sites, kurdistan-o-féminin.fr, kurdistan-o-féminin.fr et puis rojinfo.com, rojinfo.com. Et si vous lisez l'anglais, et il y en a d'autres, mais c'est pas mon cas. Et de fait, il y a cette semaine des rassemblements pour se souvenir de ce qui s'est passé dans les années 2010, des assassinats qui ont eu lieu en plein Paris. À Grenoble, le jeudi 9 janvier 2025 à 18h30, un rassemblement place Félix Poula pour défendre l'expérience démocratique du Rojava et en mémoire des militantes kurdes qui ont été assassinés à Paris en 2013. Il y a la même chose le 11 janvier 2025 dans une manifestation contre le fascisme et pour la justice et qui va servir justement à se souvenir de ces militantes assassinées à Paris en 2013. Ça aura lieu à Paris. Rendez-vous à 10h à la gare du Nord. Bon bah voilà, en espérant que vous en sachiez un peu plus. Et puis c'était pour essayer de compenser un petit peu le fait que le Rojava, pour l'instant, on en entend très 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 peu parler. Par contre, les gentils islamistes du HTS, Bon, on va pas trop traîner parce que c'est presque la fin. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, n'oubliez pas qu'il existe l'allumette. L'allumette qui a un programme. Et cette allumette en question, elle est dans le quartier de Pontlieu, 7 place de la Marne. C'est un centre social autogéré qui vous accueille tous les mardis, tous les mercredis et samedis après-midi lors de permanences de 14 à 18h. Il y a un Instagram, @l_allumette, un Facebook, @allumette.ca. CSCA, un mail, l'allumettelefeu@libremail.net et même un numéro de téléphone, 07 57 18 96. 07 57 18 96. Voilà. Que vous dire de plus? Je ne sais pas, que peut-être vous pouvez vous renseigner auprès des amis que vous avez pour savoir s'il se passe d'autres choses. Et puis si vous trouvez qu'il se passe pas assez de choses, organisez des trucs. Allez, en attendant, au revoir.